Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manila Kiza avec vous sur VOA Afrique. Bienvenue dans cette édition du lundi 15 avril 2024, dont voici d'abord les principaux titres. La campagne présidentielle au Tchad débute avec des candidats en liste pour le fauteuil présidentiel.
Nous voici aujourd'hui au dernier virage au retour à l'ordre constitutionnel. Il reste quelques jours pour élire votre prochain président de la République du Tchad.
Au Burundi, les évêques dénoncent le monopartisme et les atteintes aux libertés. Un an après le début de la guerre, une conférence à Paris sur le Soudan, le 13e marché des arts du spectacle d'Abidjan, démarre avec la participation de plus de 1000 artistes venant de 5 à 9 pays.
Vous venez de 4 coins du monde pour participer à cet événement d'une importance capitale pour la promotion de nos arts et de notre culture.
Le procès pénal historique de Donald Trump s'ouvre en pleine campagne présidentielle. Le secrétaire général de l'ONU appelle à la retenue maximale lors d'un conseil de sécurité convoqué après l'attaque de l'Iran contre Israël. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Echo. Pour l'instant, le journal. Au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, président par intérim, a officiellement lancé ce dimanche la campagne pour la présidentielle du 6 mai, censée mettre fin à 3 ans d'un régime militaire. Monsieur Déby se présente comme le garant de la sécurité et du développement économique. Alexandrine Romagnon.
Lors de son discours d'ouverture à N'Djamena, le général Déby a promis de renforcer la sécurité intérieure pour assurer la paix et la stabilité au Tchad. Il a également mis en avant ses projets de modernisation de l'agriculture, de développement industriel, ainsi que des initiatives pour améliorer les infrastructures routières et l'accès à l'électricité fiable. L'élection du 6 mai verra pour la première fois dans l'histoire du pays un président et un premier ministre en fonction s'affronter dans les urnes. Succès Masra, ex-opposant farouche récemment nommé premier ministre, figure en effet parmi les 10 candidats à la présidence. L'opposition accuse Succès Masra de l'avoir trahi et de concourir pour leur ravir des voix avec l'idée d'assurer une majorité au général et conserver son poste de chef de gouvernement. Certains des 8 autres candidats que l'opposition évincée accuse d'être des faire-valoir, acceptés ou promus par la junte pour donner un vernis démocratique à un scrutin joué d'avance, ont également fait campagne à N'Djamena, mais devant de bien plus petites assemblées.
Entre 10 et 15 civils ont été tués depuis vendredi dans la région de Beni, dans l'est de la RDC, dans de nouvelles attaques des rebelles ADF affiliés au groupe État islamique. Selon des sources locales, il est urgent que les autorités mettent fin à cette barbarie, a déclaré à l'AFP Pepin Kavota, président de la société civile de Beni. Selon lui, la plupart des victimes ont été décapitées. Au Burundi, les évêques dénoncent la tentation du monopartisme, les exécutions extrajudiciaires, la corruption et l'impunité dans le pays à un an des élections législatives. Ils l'ont fait savoir hier dimanche dans un message lu dans les milliers d'églises du pays. Nani Tetalani.
Nous savons combien le Burundi, de manière récurrente, a sombré dans la violence suite à l'exclusion et à la recherche exacerbée du pouvoir. Aujourd'hui, cela demeure pour nous une préoccupation vu qu'il existe des signes de ceux qui voudraient nous faire revivre. Le système politique révolu du monopartisme dénonce la CECAB, la Conférence épiscopale catholique du Burundi. Il est donc nécessaire que soit renforcé un régime qui fasse place à toutes les formations politiques, y compris celles qui sont en opposition à l'égard du parti au pouvoir, ajoutent les évêques burundais. Ils appellent à ce que tout soit mis en œuvre afin que soient garanties les libertés individuelles et que les scrutins à venir soient inclusifs, libres et transparents. Les évêques dénoncent la pratique d'étiqueter comme des ennemis des membres d'autres partis que celui au pouvoir, le kidnapping, l'assassinat et la disparition des gens pour des raisons politiques ou autres intérêts macabres, ainsi que la pratique de la corruption. La CECAB critique par ailleurs la culture de l'impunité et l'exclusion à l'embauche au niveau de l'État où l'accès au poste est conditionné par le seul critère de militantisme dans le parti au pouvoir et ou la capacité de verser des pots de vin.
Le comité de soutien créé pour la libération de plus de 270 lycéennes enlevées il y a 10 ans à Chibok, au Nigeria, a appelé dimanche les autorités à ne pas oublier la centaine d'entre elles toujours portées disparues. Le 14 avril 2014, 276 jeunes filles étaient enlevées par Boko Haram à Chibok, dans l'état de Borno du Nord-Est. La directrice stratégique du comité de soutien Bring Back Our Girls a appelé le président nigérien et le gouvernement fédéral à remettre aux familles des lycéennes un rapport détaillé des missions de sauvetage pour leurs filles disparues. Une conférence internationale s'ouvre ce lundi à Paris sur le Soudan avec l'espoir de réveiller la mobilisation sur une crise oubliée aux conséquences humanitaires catastrophiques et aux risques géopolitiques majeurs. La réunion co-présidée notamment par l'Allemagne associera un volet politique le matin au niveau ministériel pour essayer de trouver des portes de sortie au conflit, un volet humanitaire pour mobiliser les dons et faire entrer massivement de l'aide dans le pays, ainsi qu'une réunion d'une quarantaine de membres de la société civile soudanaise. Au moins 58 personnes ont péri en Tanzanie depuis début avril en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur le pays ces dernières semaines, a annoncé dimanche le porte-parole du gouvernement. Quelques 10 839 foyers sont touchés, 76 698 exploitations agricoles ont été endommagées par des inondations dans les zones côtières et de Morogoro.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les partis politiques et groupements haïtiens devant former le très attendu conseil présidentiel de transition ont appelé hier à l'installation dans les meilleurs délais de cet organe. Ils accusent le Premier ministre démissionnaire de ne pas avoir respecté ses engagements dans un texte gouvernemental publié vendredi. Claire Morin-Gibourg.
Les 9 parties prenantes qui se disent profondément choquées par le décret dénoncent l'introduction de modifications majeures qui, selon elles, dénaturent le projet consensuel d'un exécutif bicéphale porté par le Conseil présidentiel de transition et contestent la validité du texte. Elles exigent notamment que soit publié au journal officiel l'accord politique du 3 avril dans lequel sont détaillées la mission et l'organisation du Conseil de transition ainsi que le nom de ses membres. Dans son décret, le gouvernement sortant a acté la création du Conseil mais n'a pas mentionné ses membres par leur nom. Le ministère de la Communication appelle les personnalités désignées par les parties prenantes à soumettre aux autorités les pièces requises pour être approuvées. Cela retarde la mise en place du Conseil et peut laisser entendre que certains noms pourraient être retoqués. Les 9 formations exigent qu'Ariel Henry et son gouvernement facilitent l'installation dans les meilleurs délais du Conseil présidentiel de transition qui, une fois intronisé, devra tenter de rétablir ordre public et stabilité.
L'armée israélienne s'est félicitée dimanche d'avoir pu compter sur une coalition défensive d'alliés internationaux dirigée par les États-Unis avec la Grande-Bretagne, la France et d'autres pays pour contrer l'attaque massive de drones et de missiles de l'Iran. Cette première attaque directe de Téhéran contre le territoire israélien fait craindre une explosion régionale. Timothée Donangmaï.
L'attaque sans précédent de l'Iran a été contrée par une défense sans précédent. C'était la première fois qu'une telle coalition travaillait ensemble contre la menace de l'Iran et de ses mandataires au Moyen-Orient, a affirmé hier le porte-parole de l'armée israélienne Daniel Hagari. L'Iran a lancé samedi soir plus de 350 projectiles, des missiles balistiques, des missiles de croisière, des roquettes et des drones en direction d'Israël et d'autres pays de la région auraient pu recevoir cette menace en chemin, a déclaré M. Hagari. L'aviation militaire britannique dit avoir abattu plusieurs drones iraniens. Le président Joe Biden a pour sa part révélé que les forces américaines avaient contribué à abattre presque tous les drones et missiles tirés par l'Iran sur Israël. Il ajoute avoir réaffirmé son soutien inébranlable au premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Pour autant, Washington a prévenu qu'il ne participera pas à une éventuelle riposte israélienne contre l'Iran. L'attaque iranienne a été déclenchée en riposte à une frappe contre le consulat d'Iran à Damas le 1er avril, imputée à Israël, et dans laquelle ont péri 7 militaires iraniens. Plusieurs organisations et pays dont l'Égypte, la Chine, la Russie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'ONU et l'OTAN appellent à la retenue pour éviter que le conflit au Moyen-Orient ne devienne incontrôlable.
L'armée israélienne poursuit ce lundi ses opérations dans la bande de Gaza, affirmant que l'attaque iranienne sans précédent du week-end ne la fera pas dévier de ses objectifs face au Hamas. Donald Trump va devenir ce lundi le premier ex-président de l'histoire des États-Unis à faire face à la justice pénale avec l'ouverture d'un procès à New York qui rend plus imprévisible son duel contre Joe Biden lors de la présidentielle de novembre. Il est inculpé pour 34 falsifications de documents comptables de son entreprise, la Trump Organization, qui aurait eu pour but de cacher, sous couvert de frais juridiques, des paiements survenus en 2016 pour acheter le silence de Stormy Daniels. Jusqu'au dernier jour, les avocats ont vainement multiplié les recours pour retarder l'échéance. Samedi soir, un meeting en Pennsylvanie, Donald Trump s'est encore dépeint en victime d'une persécution judiciaire et politique. Il a assuré qu'il témoignerait au procès. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce matin par Nanit Talani.
Au Nigeria, le groupe bancaire Guaranty Trust Holding veut lever jusqu'à 750 millions de dollars de capital. Cette annonce suit celle de la Banque centrale qui a fixé des exigences minimales en matière de capital pour les banques afin de leur permettre de jouer un rôle plus important dans la stimulation de la croissance économique et renforcer le système financier du pays. Plus de 20 banques nigérianes devront lever des capitaux supplémentaires dans 2 ans pour atteindre le nouveau seuil fixé par la Banque centrale. Stimuler le développement du secteur privé grâce à des investissements dans les infrastructures et développer la chaîne de valeur agricole du pays, tels sont les 2 domaines prioritaires pour 2024-2029 que la BAD a définis en faveur de la Zambie. Le projet veut augmenter la productivité, renforcer la compétitivité commerciale, diversifier l'économie, améliorer la vie des populations et créer des emplois. Pour terminer, l'Italie veut recruter 300 travailleurs migrants des pays situés en dehors de l'Union européenne comme la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie et le Liban qui n'auront pas le statut de réfugiés dans ce cadre. L'Italie a l'une des populations les plus âgées du monde et manque de main-d'œuvre pour les emplois moins bien rémunérés dans l'industrie manufacturière, l'hôtellerie et les soins à domicile.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports avec Élisée Sonia. Bonjour Élisée.
Bonjour Eric et bonjour à tous.
Parlons d'abord du football en salle avec la CAN Futsal qui se poursuit à Rabat au Maroc.
Oui, avec la 2e journée des matchs de poule et hier dans la poule B, la Libye s'est relancée en battant la Mauritanie, ce qui profite à l'Égypte qui est désormais seule en tête au classement. Le Maroc, double tenant du titre, caracole aussi seul en tête du groupe A.
Et en plein air à présent et sur le gazon, se jouait hier l'un des derbys du championnat en RDC.
Tout à fait, et c'est entre l'ASV Club de Kinshasa et le TP Mazembe de Lubumbashi. Un derby entre les 2 clubs les plus titrés du pays, remporté par Mazembe sur la marque de 2-1. Les Corbeaux, demi-finalistes en Ligue des Champions, sont en train de réaliser une excellente saison dans le championnat. 6 victoires en 6 matchs et une solide première place au classement. De son côté, l'ASV Club avec 10 points boucle donc la phase aller des play-offs de cette Ligue 1 à la 4e place.
Avant de nous quitter, Élisée, on se rend en Allemagne. Le Bayer Leverkusen remportait le championnat, le premier titre de son histoire.
Le club entraîné par Xabi Alonso est sacré champion pour la première fois en 120 ans d'existence après avoir largement battu le Werder de Brême 5-0 au terme de la 29e journée de la Bundesliga. Le Bayern, toujours invaincu cette saison, a donc mis fin à la série de 11 saisons de titres d'affilée de champion du Bayern de Munich. A noter que plusieurs joueurs africains ont contribué à cette saison exceptionnelle de 25 victoires, 4 nuls et 0 défaites. On peut citer l'attaquant nigérian Victor Boniface ou encore les défenseurs burkinabés et ivoiriens Edmond Tapsoba et Odilon Kusunu. Signalons que le club est toujours en lice pour remporter la Coupe d'Allemagne et la Ligue Europa.
C'était les sports avec Élisée Sonia.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manilakidzado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Togo, la campagne électorale pour les élections législatives et régionales du 29 avril bat son plein depuis ce week-end, mettant en jeu le renouvellement de l'Assemblée nationale avec la participation de l'opposition et l'élection des conseillers régionaux pour la première fois. Au cœur du scrutin, la révision de la Constitution initiée par les députés sortants ajoute une dimension importante à ces élections de Lomé, notre correspondant Kossi Wosu.
Aux premières heures de cette campagne électorale, faite de caravanes et de sensibilisation des militants, les ambitions des uns et des autres sont affichées. Après avoir boycotté la précédente élection législative, à l'instar des autres formations de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, est, cette fois-ci, sur le pied de guerre.
Je ne vais pas aux élections pour faire de la figuration. Nous avons, dans notre parcours, constaté qu'il est plus grave de ne pas aller que d'y aller. Pour nous, le caractère massif de la participation populaire peut corriger les problèmes du découpage et du fichier électoral.
Ces élections interviennent à un moment où la récente révision de la Constitution, qui fait passer le Togo dans un régime parlementaire, cristallise les opinions dans le pays. Pour Gilbert Bawara, du parti présidentiel Unir, ce scrutin est capital pour son parti.
Ces élections législatives et régionales sont un grand enjeu. En allant voter pour nos députés, nous votons en même temps pour le choix de celui qui dirigera le pays en tant que président du Conseil ou en tant que président de la République. Nous allons continuer cette campagne dans un esprit de pédagogie envers la population pour leur expliquer le bien fondé de toutes les réformes que nous menons, y compris la révision de la Constitution.
La campagne sera âpre sur le sujet de la révision de la Constitution. L'opposition, qui ne veut pas en entendre parler, en fait son cheval de bataille. Dodi Apevon, président des FDR.
J'avoue que c'est une campagne assez spéciale, parce que nous poursuivons un double objectif. Nous mobiliser en tant qu'opposition pour refuser la forfaiture de la réécriture de notre Constitution et en même temps faire campagne pour se faire élire, pour voir l'opposition dans son ensemble occuper la meilleure place au Parlement, qui va prendre la place de ceux qui sont en train de commettre la forfaiture.
Entre ces géants de la politique togolaise, Mimi Bosusuegede, leader sur la liste des indépendants Les Engagés, estime qu'il est temps pour une meilleure représentation du peuple à l'Assemblée nationale.
Et sur les 136 lois votées sur la législature qui est en train de finir, combien prennent en compte réellement le quotidien, le vécu, ce qui doit sortir le Togolais de sa précarité, de ce qu'il vit aujourd'hui? C'est à compter au bout de doigts. Non, nous voulons que ça s'arrête. Et c'est pour ça que nous disons, il est temps que nous aussi, qui vivons ces réalités, il est temps que nous qui travaillons sur ces réalités, nous soyons là à l'Assemblée pour parler au nom du peuple.
Le marchandage des voix des électeurs se poursuivra jusqu'au 27 avril pour des élections qui interviendront 48 heures plus tard. Kossi Wosu, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Au Tchad, la campagne électorale pour la présidentielle du 6 mai a débuté officiellement dimanche 14 avril. Parmi les 10 candidats en lice figurent le chef de la junte au pouvoir, Mahamat Idriss Déby Itno, ainsi que son premier ministre. Cette élection marque la fin d'une transition de 3 ans depuis le décès du regretté maréchal Idriss Déby Itno en avril 2021 et vise à rétablir l'ordre constitutionnel. André Kodmatchingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
N'Djamena vit au rythme de la campagne pour l'élection présidentielle du 6 mai prochain. Dans les différents QG des 10 candidats pour cette course au pouvoir, l'animation est détaillée dans la capitale tchadienne. Le candidat de la coalition Tchad Unie, Mahamat Idriss Déby Itno, a donné rendez-vous à ses militants et sympathisants ce dimanche à la place de la nation en face du palais présidentiel.
Les militants et militantes de la coalition pour Tchad et Unie sont là.
Bonjour. Premier tour.
arrivé à la tête du pays en 2021 suite à la mort tragique de son père, Mohamed Idriss Déby Itno veut légitimer son pouvoir à travers les urnes.
Nous voici aujourd'hui au dernier virage au retour à l'ordre constitutionnel. Il reste quelques jours pour élire votre prochain président de la République du Tchad. Après 3 ans à la tête du pays, j'ai de l'expérience. Je sais ce que veut le Tchad. Le programme que je vous propose se résume en 12 chantiers et en 100 actions concrètes.
Le Premier ministre Dr. Succès Masra, qui se présente lui aussi à cette élection sous la bannière de la coalition Justice et Égalité, a choisi ce premier jour de campagne pour visiter les cellules et bureaux de soutien à sa candidature dans les différents arrondissements de la capitale.
Ce n'est pas un hasard que ça soit ici, au premier arrondissement de la première ville de notre pays, que nous venions prendre la parole dans ce que nous avons appelé l'allée coupe présidentielle, qui n'est pas un meeting.
Dr. Succès Masra, face à ses militants et sympathisant du premier arrondissement de la ville de Djamena.
Quand je regarde votre visage, je vois l'envie et la rage de vaincre. Alors, je suis convaincu d'une seule chose, c'est que nous, on ne va pas faire 2 tours. On va faire un seul tour. Et donc, tout ce qui vous reste à faire, c'est d'aller voter. Et une fois que vous avez voté, vous veillez vous-même comme des sentinelles et vous contrôlez les résultats de votre vote. Et donc, c'est que dans 3 semaines exactement, nous allons organiser la plus grande révolution pacifique de l'histoire de notre pays.
Pour les organisations de la société civile, ces élections se tiennent dans un contexte difficile dû à la cherté des vies, mais aussi une situation sécuritaire délétère. Maître Kemlum Djerevi Défine, membre de la société civile tchadienne.
Quelqu'un a faim et quand vous lui donnez de l'argent, il vote pour vous. Donc ça présage déjà de l'achat des consciences. La sécurité est un problème. Quel est ce candidat qui va battre campagne du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans des conditions de sécurité qu'on connaît, où l'armée n'est pas indépendante pour pouvoir jouer un rôle d'arbitre? Le fichier électoral lui-même, le recensement de la population du Tchad n'a pas été fait. C'est depuis 2009. On fonctionne par des projections. Donc ça pose problème.
Plusieurs autres candidats en liste ont également fait des sorties médiatiques dans leur QG pour donner le ton de cette campagne qui prendra fin le 4 mai prochain. André Kordoumajingar pour VOA Afrique, Djamena.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
La couverture santé universelle démarre au Cameroun avec plus de 2 millions de personnes enrôlées depuis son lancement en phase pilote l'an dernier. Malgré quelques questions en suspens, les bénéficiaires et les autorités sanitaires considèrent le bilan comme satisfaisant, marquant ainsi un pas important vers l'accès aux soins pour tous. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jultap.
La phase pilote de la couverture santé universelle bénéficie principalement aux femmes enceintes et enfants de 0 à 5 ans. Plus de 300 000 femmes enceintes enrôlées ont pu faire des consultations prénatales jusqu'à l'accouchement à coût réduit, d'après les statistiques du ministère de la Santé publique. Des femmes enceintes témoignent.
C'est un parti que tu ne payes pas. Tout le monde demande qu'à chaque mois que tu passes à la vie, tu payes dans ta tue. Or, dès que tu payes seulement les 6 000 francs, tu ne payes pas plus.
Le prix est tellement bas, 6 000 francs, c'est à la portée de toutes les familles.
Le panier des soins a été élargi à d'autres types de patients dans les centres médicaux d'arrondissement et les hôpitaux du district. Docteur Simon Nouji, chef section communication, marketing et promotion UTR. Couverture santé universelle.
Si les personnes qui ont le VIH, la tuberculose, continuent à recevoir leurs médicaments gratuitement.
Un peu plus de 1000 patients sont sous hémodialyse et déboursent désormais 15 000 francs CFA par an. Il y a 2 ans, les mêmes patients payaient 5 000 francs CFA par séance de dialyse. Mais pour la journaliste blogueuse spécialiste des questions de santé, Olive Atangana, le gouvernement ne dit pas tout sur la couverture santé universelle.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les projets déjà existants. Donc à ce moment, la couverture santé universelle est une prolongation des projets déjà existants et financés par les bailleurs de fonds. Par exemple, vous avez l'AFD, vous avez le chèque santé avec l'enrôlement des femmes enceintes, vous avez les user free avec les personnes vivant avec le VIH-SIDA.
Pour parler de couverture santé universelle, au-delà des déterminants, c'est-à-dire la gouvernance, le plateau technique, l'accès aux soins de santé, il faut également la loi. Et à travers la loi, on saura qui va payer quoi, quels sont les critères, qui va financer. Ça, ce sont des éléments basiques que doit comporter la loi. Or, aujourd'hui, on n'a pas cette loi.
Pour marquer l'an 1 de la phase pilote de la couverture santé universelle, le ministère de la Santé publique a envoyé un SMS aux abonnés des compagnies téléphoniques incitant les Camerounais de partager massivement l'information sur la réalité de la couverture santé universelle. Malachi Manaouda, ministre de la Santé publique.
On a aujourd'hui plus de 3 millions de personnes qui sont déjà préenrôlées. C'est quelque chose qui est encourageant. Les accouchements assistés par des professionnels de santé ont augmenté d'environ 2 à 3%. Ça voudrait dire que nous avons diminué par là même le taux de mortalité maternelle et infantile juvénile.
Yaoundé, Emmanuel Jeune-Tap, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
La 13e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan a débuté le samedi 13 avril, regroupant plus de 1000 artistes venant de 59 pays. Cet événement biennal multiculturel a ouvert ses portes dans la capitale économique ivoirienne. Notre correspondant à Abidjan, Ange Bijou Nomenyo, offre un aperçu des premières journées du festival, mettant en lumière sa diversité culturelle. Suivez.
Ils étaient très nombreux à faire le déplacement lors de la cérémonie d'ouverture du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa. On pouvait voir dans la foule des Rwandais, des Sénégalais, des Malgaches, des Coréens et des gens d'autres nationalités. Ce samedi 13 avril, au Palais de la Culture de Treizeville, le monde de la culture a répondu présent, à la plus grande satisfaction des autorités ivoiriennes. Françoise Rimarque, ministre de la Culture et de la Francophonie.
Vous venez de quatre coins du monde pour participer à cet événement d'une importance capitale pour la promotion de nos arts et de notre culture. Je me dois de vous remercier pour votre présence quantitative et qualitative. Votre volonté est manifeste de contribuer à nos côtés, à donner la chance à des talents de se révéler, se structurer, se professionnaliser et vivre de leur art.
Parmi les artistes invités, on peut compter des Burkinabés et des Maliens. Alidou fait partie d'eux. Cet artiste plasticien a la particularité de décorer des espaces au moyen du graffiti et de la peinture. Nous le retrouvons au lendemain de la cérémonie d'ouverture.
De façon générale, je parle beaucoup de la jeunesse africaine dans mes créations. Parce qu'après, nous les jeunes, aujourd'hui, c'est nous qui sommes le futur en fait, de ce continent en devenir. Donc du coup, je surfe, si tu veux, je plane sur différentes histoires, différents aspects de nos cultures, de ce qu'on vit en tant que jeunes et de ce qui a été fait dans le passé par nos prédécesseurs. Comment est-ce qu'on puise dedans pour nous en tant que jeunes aujourd'hui se projeter dans l'avenir.
Un peu plus loin, nous retrouvons Madame Aïdara, une jeune femme malienne qui vend des produits de son pays. Son étalage est rempli de produits traditionnels, pouvant servir au diagnostic de maladies ou de...
Et puis on demande aux gens de sortir massivement. Nous sommes là pour vous, quoi.
105 acheteurs professionnels sont attendus à la 13e édition du Massa. Les premiers jours du festival sont plutôt satisfaisants pour la plupart d'entre eux.
C'est votre première fois en Côte d'Ivoire ? Oui, c'est la première fois. C'est la première fois en Côte d'Ivoire, c'est la première fois au Massa. C'est la première fois qu'on sort du Cameroun. Les autres faits, on apprend, on voit les autres arts. On essaye d'acquérir plus de connaissances, plus de savoir.
Bon, ce qui m'a poussé à venir sur les spectacles, ça valorise la culture, surtout. Ça, ça nous fait savoir que l'Afrique est vraiment riche, l'Afrique a vraiment du talent. Ah, et l'Afrique est vraiment très très riche aussi.
Le marché des arts et du spectacle va se dérouler jusqu'au 20 avril 2024 dans la capitale économique ivoirienne. Toutes les communes d'Abidjan sont mises à contribution à l'occasion de cette 13e édition. Le thème retenu cette année est jeunesse, innovation et entrepreneuriat. Ange Bijou Nomeyon pour VOA Afrique, à Abidjan.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manilakiza à son micro. Firmin Koyaweda a assuré la production et la réalisation à la console. Nashwan Kale, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com et vos pages Facebook, YouTube, la plateforme X pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes.